Sur le bout de la langue. Ça va faire des histoires. Une émission proposée par Virginie Komaniecki.
Je suis entrée dans une forêt sans arbres, la tête la première. J'ai suivi un fil d'eau intarissable. Il m'a tout raconté sans dire un mot. À la source des sources, j'ai vu se mélanger des récits de partout, de longtemps, de toujours. Il parlait avec aujourd'hui et demain les écouter. Alors, à pleine bouche, j'ai puisé. J'ai tourné ma langue cette fois. Tu me crois ? Tu ne me crois pas ? Pourtant, c'est là. C'est sur le bout de ma langue. Sous la cendre, bien cachée, couve un feu de vie, feu de renaissance, feu de connaissance. Fille de l'âtre, fille des cendres liée à la mort de sa mère et qui devra traverser tout un cycle d'initiation et de transformation pour trouver le goût d'être, de vivre pour elle-même et d'aimer, Cendrillon est une figure puissante et quasi mythique d'émancipation féminine et d'individuation. Cendrillon, c'est sans doute le conte le plus connu, le plus répandu, le plus aimé. Mais le récit de Perrault et celui des frères Grimm, parce qu'ils ont été écrits, imprimés et reproduits largement, ont éclipsé des centaines, peut-être des milliers d'autres, recueillis par des ethnologues et des folkloristes. Ces récits, aussi attachants que vigoureux dans leur expression, apportent des éléments narratifs inédits qui enrichissent l'histoire de cette jeune fille persécutée et lui donnent des couleurs insolites. De l'Europe à l'Orient, de l'Afrique aux Amériques, sans oublier la première version, passée dans l'écrit, elle est chinoise et date du IXe siècle de notre ère. Cendrillon appartient à un cycle où l'on peut repérer un grand nombre de transformations narratives et d'entrelacements de motifs. Ce cycle comprend non seulement Cendrillon, proprement dite, et Peau d'âne, mais aussi un récit connu d'après la version des frères Grimm sous le nom de Un œil, deux yeux, trois yeux, qui est peut-être précurseur des deux autres. Dans la réalité, cependant, on s'aperçoit que les trois récits s'empruntent des motifs en toute liberté puisqu'ils coexistent dans la tradition de tous les pays européens.
Fifi était orpheline, c'est des choses qui arrivent dans la vie, comme d'un conte. Ça fait que Fifi, il fallait qu'elle se trouve une maison pour dormir, pour manger, pour se protéger. Ça fait qu'elle a mis la route sous ses pieds, elle a marché, marché, tourne d'un bord, tourne de l'autre, elle arrive à une maison. Dans la maison, il y avait une bonne femme. On va l'appeler la bonne femme. La bonne femme, elle avait trois filles. La première, elle s'appelait Simple-Œil. La deuxième, elle s'appelait Double-Œil. Puis la troisième, vous avez tout compris. Ça fait que Fifi, elle s'est faite adopter par cette maisonnée-là. Mais les trois filles, elles faisaient hardien. Puis quand elles faisaient hardien, elles dormaient. Puis quand elles ne dormaient pas, elles mangeaient. Puis quand elles ne mangeaient pas, elles chiolaient. Ça fait que c'est Fifi qui faisait tout dans cette maisonnée-là. Le ménage, le lavage, le mangeage. Puis tout ça pour un petit bout de pain et un petit verre d'eau. Mais on dirait que Fifi, ça ne les dérangeait pas. Elle faisait ça, elle chantait, puis elle grandissait, puis elle devenait une belle jeune fille. Un bon matin, la bonne femme a dit, « Fifi, ici, tu vois dans le panier, il y a de la laine. Bien, tu vas la filer, la tisser, puis la teindre en blanc pour faire une robe à mes filles. Jusqu'à demain matin. Sinon, dehors. » Je sais pas comment que ça se passe par chez vous, mais par chez nous, filer, tisser, teindre la laine, c'est long. Tu fais pas ça en une journée. Et Fifi était découragée. Ça fait qu'elle s'en va se confier à la seule personne à qui elle pouvait se confier, la vache. Ça marche. Elle s'en va dans le champ, puis elle y compte cette histoire-là. La vache la regarde avec ses beaux grands yeux, puis elle dit, « Fifi, inquiète-toi pas, je vais t'aider. Tu vas prendre ton petit panier, puis tu vas rentrer dans mon oreille. Quand tu vas ressortir par l'autre oreille, tu verras bien qu'est-ce qui s'est passé. » Fifi, elle n'avait rien à perdre. Elle a pris son petit panier, elle est rentrée dans l'oreille de la vache. Bien, cher, quand elle est sortie de l'autre oreille de la vache, dans son panier, il y avait un beau grand tissu, tout doux, tout blanc, tout bien plié.
Cendrillon tient son nom des cendres de l'âtre où elle est assise. Celui-ci est très ambivalent. L'âtre, c'est à la fois le lieu où elle est reléguée et en même temps l'âtre, c'est le royaume qu'elle préserve jalousement comme étant son territoire. Dans les versions orales, quand les sœurs s'approchent d'elle, Cendrillon jette du sel sur le feu. Celui-ci va péter sur les flammes, ça fait des tonnerres et on pense ainsi qu'elle a des poux. Et comme elle est perçue comme une pouilleuse et que les poux se transmettent, les sœurs se tiendront à distance. Pourtant, l'âtre donne à Cendrillon une connotation maternelle. L'âtre, c'est le cœur qui réchauffe et qui nourrit. Cette figure maternelle qui est au cœur de la maison. Dans de nombreuses versions, Cendrillon pleure. Elle est très malheureuse parce qu'elle est maltraitée, mais surtout parce qu'elle porte le deuil de sa mère, d'une mère qui est morte et qui, dans certaines versions, en Grèce ou au Tibet par exemple, a été mise à mort. En effet, dans ces versions, la mère, Cendrillon et ses sœurs vont se trouver enfermées au fond d'un puits et vont devoir carder la laine ou la filer. À un moment, elles n'ont plus rien à manger. Alors les sœurs disent, la première qui laisse tomber son fuseau, celle-là sera mangée par les autres. Et celle qui va laisser tomber son fuseau de fatigue ou de maladresse, c'est la vieille femme, c'est la mère. Et les sœurs vont la manger. Cendrillon est la seule à refuser de manger sa mère. Elle va rassembler les os, les mettre dans une jarre et honorer la mémoire de sa mère ainsi. Cendrillon est vraiment la gardienne de la mémoire et la gardienne des cendres, et c'est d'abord pour ça qu'elle pleure. C'est Bernadette Bricout qui parle ainsi. Bernadette Bricout est professeure de littérature orale à l'Université Paris Diderot. Au micro de Jean Lebrun dans La Marche de l'Histoire, elle éclaire ce récit d'un jour nouveau.
Et la cendre est sans lieu, parce que ensuite elle chemine, il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, qu'elle sert à faire la lessive.
Vous avez raison, elle chemine de l'âtre à la cuve à lessive, enfin plus exactement à ce sac dans lequel on mettait traditionnellement les cendres de l'âtre, les cendres du fournil aussi, toutes les cendres de la maison, et qui permettait, on plaçait ce sac au-dessus de la cuve, et on n'était pas encore à l'époque de la mère Denis et des enzymes gloutons, on allait verser de l'eau bouillante sur ce sac rempli de cendres, dont la vertu, en quelque sorte, de purification, permettait de donner des draps qui avaient, nous ont dit nos mères, une belle couleur bleue, une inimitable couleur bleue.
Alors on imagine les laveuses avec leur patoir au lavoir, chanter des chansons, raconter l'histoire de Cendrillon, le désir aussi qui traverse Cendrillon. C'est quoi le désir de Cendrillon tel que le chantent les dames du lavoir ?
D'abord, il faut dire que ces dames du lavoir, elles ont des liens très obscurs à notre héroïne, parce que ce sont aussi des femmes qui manipulent la cendre et qui lavent le linge. Ce travail de laveuse est traditionnellement un travail de vieille femme. Un travail de vieille femme qui est à l'abri des orages du désir. Un travail de vieille femme qui est au soir de sa vie. C'est très important en ce que le corps de la femme ménopausée est à l'abri des orages biologiques. Et cela donne à la vieille femme un pouvoir, celui de manipuler le sacré, de se tenir aux deux extrémités de la vie, de laver les enfants et de laver les morts. Le travail de laveuse, c'est le travail d'une femme qui est à l'écart de la vie, à l'écart du désir. Or, c'est précisément le sort de Cendrillon, qui semble vieille avant d'avoir été, qui semble avoir laissé passer son tour avant d'avoir été.
Dans le numéro 59-60 de La Grande Oreille, entièrement dédié à Cendrillon, l'anthropologue Nicole Belmont se penche également sur les cendres. Et moi, je lui prête ma voix. Cendrillon est une fille trop attachée au foyer de son père au point d'être couverte de ses cendres jusqu'à ne jamais vouloir le quitter. Telle, dans la mythologie grecque, la déesse Hestia, la divinité vierge qui a renoncé à jamais aux noces pour devenir la gardienne du foyer domestique paternel. Les cendres sont un reste paradoxal de quelque chose qui a été consumé. Si l'héroïne est cendreuse, serait-elle le reste visible d'une mère disparue, d'autant plus disparue que le père a remplacé son épouse en se remariant ? Cendrillon, serait-elle une jeune fille qui aimerait occuper la place de sa mère auprès du père ? Une fille qui s'identifie à sa mère et emporte le deuil en même temps qu'une fille trop attachée au foyer paternel qu'elle ne quitte pas, au point d'être couverte de ses cendres. Rien d'anormal ici, c'est l'itinéraire conforme du destin féminin qui est raconté. Le lien affectif avec le père doit être transféré sur un homme étranger au foyer paternel dont il faut sortir. Ce sera une figure maternelle, avatar probable de la mère disparue, parfois même sous forme animale, qui lui donnera les parures permettant de briller et d'attirer l'attention du prince.
Ma chère enfant, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. C'est très simple, il faut le décourager sans le contredire.
Mais je l'aime.
Je sais que vous l'aimez. Mais je vous l'ai déjà dit, vous confondez les amours.
Il me presse et je dois lui rendre réponse demain.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois, mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants, et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant, la vie vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements. Je vais vous éclairer brillamment. Je vais vous protéger. J'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Mais de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
Ne vous tourmentez plus, il ne vous arrivera rien de fâcheux si vous suivez fidèlement mes conseils.
Peau d'âne constitue après Cendrillon la dernière transformation de ce cycle. Si la Cendrillon mobilisée au foyer paternel suggère sans le dire le désir oedipien que la fille porte au père, celui de Peau d'âne exprime ouvertement un désir contre-oedipien, au point que l'héroïne sera contrainte à fuir définitivement sa demeure et à choisir d'emblée la mobilité. Une autre transformation concerne la figure de la mère qui, tutélaire bien que morte dans Cendrillon, tente en revanche dans Peau d'âne d'immobiliser définitivement sa fille au foyer paternel puisqu'à son lit de mort, elle ne permet le remariage de son mari qu'avec une fille conforme à elle-même, c'est-à-dire sa propre fille. La peau d'âne qui remplace la bille de cendre connaît de nombreuses variantes. Peau de porc, peau de vieille, habille de bois. Les cendres évoquent la mort, le deuil. La peau, pour Vladimir Prop, proviendrait du motif animal Et la modification de ce motif ne lui enlève pas sa signification funèbre. Les peuples primitifs, en effet, enveloppaient leurs morts dans des peaux animales ou les plaçaient dans des troncs d'arbres évidés. Le récit apparemment adouci conserve ainsi ses motifs inquiétants, afin de faire entendre que les filles traversent lors de l'élaboration oedipienne un véritable rite de passage, ou le stade de marge entre séparation et agrégation constitue une mort symbolique. Néanmoins, vieille femme dans l'âme ou pas, Cendrillon a le désir d'aller au bal. Elle a le désir de sortir d'une maison dont elle est la gardienne pour aller voir ce qui se passe parfois de l'autre côté de la rivière, ou au château, ou à la messe. En tout cas, sortir pour voir le monde et peut-être pour rencontrer l'autre et trouver chaussures à son pied. Le château a marqué durablement notre imaginaire. Dans toutes les adaptations contemporaines de Cendrillon, on a le sentiment que le bal est repris pratiquement comme une sorte de lieu obligé de la rencontre, parce que le bal est un lieu public. C'est un lieu de sociabilité, un lieu où on se découvre, on y danse, on s'y accorde. Mais l'intimité y est très fragile, très éphémère. Elle est en quelque sorte sous le contrôle de la société.
L'intimité très fragile, très éphémère que crée le bal, elle est en quelque sorte sous le contrôle de la société.
C'est la conversation privée dans l'espace public.
Voilà, il y a celles qui font tapisserie avec leur mère, et qui sont en général les gardiennes de l'ordre, et d'ailleurs souvent des gardiennes assez sévères sur ce qui se joue. Et puis il y a une scène du désir, mais c'est un désir qui ne peut jamais se concrétiser complètement, puisqu'on est dans le frôlement, on est dans des mouvements ritualisés, on est dans le contact des mains, mais pas dans l'étreinte. Et vous aviez raison, dans l'intimité d'une parole qui se protège, mais qui de toute manière va finir avec le bal.
Mais la permission de minuit?
Alors, ce qu'il faut dire quand même dans Cendrillon, avant la permission de minuit, c'est qu'on n'a même pas besoin de parole pour séduire le prince. Dès que Cendrillon apparaît, c'est en quelque sorte une révélation définitive. Il est ébloui, il ne voit plus qu'elle. Et la permission de minuit, dont on a dit trop souvent que, au fond, elle était là, vous voyez, comme dans la langue populaire, pour marquer une borne liée à la bienséance. Les vraies jeunes filles ne courent pas les rues ou les bals après minuit. Je crois que la permission de minuit, elle est vraiment là comme un enseignement de la fée. Moi, il me semble que la fée qui est du côté des figures maternelles, mais elle enseigne à Cendrillon quelque chose d'absolument fondamental qui a à voir avec la manière de faire advenir le désir. Cendrillon surgit, elle éblouit le prince et à peine est-il séduit. À peine lui a-t-il demandé d'où elle venait. Vous avez entendu dans la belle version de Calvino, de cette rue où il y a de la poussière. Il y a des versions où elle dira « Je viens du pays du balai, je viens du pays du torchon ». Et le prince répondra « Je ne connais pas ce pays-là ». C'est à la fois le pays des servantes, mais c'est aussi le pays des femmes et le royaume de la maison. Eh bien, à peine a-t-elle dit cela qu'elle disparaît. Et aussitôt disparue, elle devient l'élue.
Une soirée merveilleuse.
Merveilleuse.
Je dois partir.
Attendez.
Je vous appellerai.
Attendez.
Je ne connais même pas votre nom.
Allô?
Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous parler tout à l'heure.
Maintenant, tout va bien. Je vous appelle de mon téléphone portable. SFR double mon temps de communication le week-end. Et nous sommes le week-end.
Pourquoi êtes-vous parti?
C'est une longue histoire.
Je vous écoute, puisque le temps n'a plus d'importance.
SFR, le monde sans fil est à vous. Avec les heures week-end, SFR double votre temps de communication. SFR est une marque de Cegetel.
Selon les versions, la façon dont le prince récupère la pantoufle varie. Le prince l'a parfois attrapée au vol. Quelquefois, il a médité son coup, en quelque sorte, et il a enduit de poids ou de miel l'escalier pour que la pantoufle reste collée. Quelquefois aussi, comme chez Perrault, Cendrillon perd tout simplement sa pantoufle, qu'elle abandonne peut-être comme une carte de visite. Car s'il n'y a pas de pantoufle, le prince ne pourra pas la retrouver. Lui, il garde la pantoufle comme l'objet précieux qui le conduira jusqu'à l'inconnu, et elle, je crois qu'elle garde la pantoufle comme le souvenir secret d'une gloire perdue et promise. Elle est une princesse. Personne ne le sait, mais elle le sait. Et je crois que l'auditeur du conte, qu'il soit enfant ou adulte, a besoin de se dire à certains moments « Il y a en moi un trésor. Tout le monde l'ignore, mais je peux être roi. » Et je ne parle pas d'une conquête du pouvoir ou de l'ascension sociale, je parle de quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Je peux naître à moi-même. Et alors, véritablement, je pourrais chausser les deux pantoufles. Vous remarquerez que de tous les objets du conte, la pantoufle est le seul qui ne se désenchante pas. Le conte nous parle de cette rencontre merveilleuse d'un pied et d'une pantoufle qui sont faits l'un pour l'autre. Il y a eu une conjonction parfaite qui est érotique. On ne peut pas ne pas penser aux très belles pages d'André Breton dans L'amour fou sur la parfaite adhésion de cette chaussure et de ce pied qui se rencontrent, qui s'attirent l'un l'autre. Mais en même temps, bien entendu, c'est une conjonction spirituelle, trouver chaussure à son pied. C'est véritablement trouver celui ou celle qui est fait pour nous, qu'on reconnaîtra au premier regard, nous dit le comte. Et c'est bien sûr de cette rencontre-là que le comte nous parle.
Je ne savais pas que tu m'aimais.
En êtes-vous certain désormais?
Il aura suffi d'un anneau d'or.
Il aura fallu qu'on nous jette un sort.
Mais qu'allons-nous faire de tant de bonheur? Le montrer ou bien le taire? Ce que d'autres n'ont jamais su faire.
Nos amours resteront légendaires et nous vivrons longtemps après la vie.
Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour? Le montrer ou bien le taire? Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
Nous fumerons la pipe en cachette.
Nous nous gaverons de pâtisserie.
Mais qu'allons-nous faire de tous ces plaisirs?
Il y en a tant sur terre.
Cette émission, je suis allée à la rencontre de Bernadette Bricout et Nicole Belmont, femmes éclairées, glanant articles et extraits auprès de France Inter et La Marche de l'Histoire de Jean Lebrun, ainsi que dans la revue La Grande Oreille. Nous y avons également entendu La Vache Magique, extrait de la version d'un un œil, double œil, triple œil, porté par la merveilleuse Nadine Walsh. Vous retrouverez toutes les références, articles, musiques, extraits, sur la page de l'émission. Voilà. Sur le bout de la langue, c'est fini pour ce mois-ci. Je remercie Pauline Lemaire Desmarais pour la réalisation et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur les ondes de Radio-Olympe.